sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard, sans détour, 1er mai. Oh, oh, 1er mai, fête internationale des travailleurs. Mais en Amérique du Nord, ça a été remplacé par la fête du travail en septembre. Vous lirez l'histoire de ce changement de congé et vous apprendrez qu'il s'agissait des luttes syndicales dans les années 20 et les années 30. Mais vous irez voir, c'est quand même intéressant l'histoire du 1er mai en Amérique du Nord et pourquoi ben, on n'en a pas. Cela dit, aujourd'hui, le docteur Suzanne Lamarre, la docteure Lamarre qui est psychiatre, a écrit un livre, deuxième édition, « Aider sans nuire ». On va parler de la relation entre les proches aidants et les personnes qui sont aidées. Cette relation-là, parfois, peut être toxique et parfois peut être, au contraire, productive et bienveillante. Cancer, mode d'emploi, un livre de Sophie Marcotte que nous rencontrons. Madame Marcotte écrit de façon très simple sa lutte, son combat, sa vie après le diagnostic et les traitements, ainsi de suite. Pour quelqu'un qui a vécu avec le cancer, c'est précieux. Et pour quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il ou qu'elle a le cancer, c'est vraiment un excellent guide. Nous aurons également un sujet plus aride, mais tout à fait dans la saison. On va parler d'impôts, entre autres, avec M. Guillaume Joseph, directeur général de l'Appui. On parle encore une fois de proches aidants, mais de cette fois-ci sous l'angle des crédits d'impôts et des aides fiscales ou des façons d'alléger, si je peux dire, le fardeau financier dans une situation d'aidance. Avant tout ça, cependant, on va aller faire un tour autour du monde, pas celui d'Esther Hardy, en revue de presse à 13h, mais celui de la famille Lemay-Pelletier. Et pour nous en parler, on a avec nous Julie Châtelain. Tout ça à Sans détour. Julie Châtelain, bonjour.
Allô, François.
Comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Ça va bien, je te remercie. La famille Lemay-Pelletier de Boucherville a fait parler d'elle passablement depuis un an. Et ils reviennent au pays après un tour du monde dans quelques semaines, je pense.
Non, dans le fond, ils sont revenus. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était dans quelques semaines. Non, ça a pris un an complet, là, faire le tour.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Ils ont fait le tour du monde pendant un mois, mais pendant un an, mais ils vont revenir bientôt au pays.
Oui, ils sont revenus le 8 avril, en fait.
Ah, d'accord, parfait. J'avais l'impression que c'était... Ah, ben tant mieux. Et pour nous en parler, ben toi, tu es bien placé parce que tu les connais très bien.
Exactement, c'est ça. Parce que dans le fond, pendant un an, à partir de mars 2022, ils sont partis faire le tour du monde et ils ont vraiment touché. Il y a des articles de partout dans le monde qui ont été faits. Et moi, c'est parce que je les connaissais déjà, en fait, depuis février 2020. Et j'ai envie de raconter comment que le début de la rencontre est arrivé parce que c'est, des fois, dans la vie, il y a des situations où est-ce qu'on dit « Ah, ben, coudonc, est-ce qu'on va mettre un truc en mouvement, quelque chose qu'on a en profond, tu sais, qui est profondément un rêve? » Tu sais, des fois, on va se limiter nous-mêmes. Et moi, ce que j'ai décidé de faire en février 2020, c'est que je me suis dit « Moi, je suis en train de devenir aveugle à ce moment-là, dans le sens que on venait comme de me l'officialiser. » J'avais eu quand même plusieurs opérations et je me disais, moi là, si je deviens aveugle demain matin, je vais avoir des regrets de ne pas avoir profité de ce que je vois pour voyager.
Et c'est là le lien, parce que pour nos auditeurs, s'ils ne le savent pas déjà, la famille Lemay-Pelletier, le couple a 4 enfants et 3 de ces enfants-là ont de la rétinite pigmentaire. Oui. Donc, ils vont perdre la vue à plus ou moins brève échéance. Et c'était ça un peu le but du voyage qu'ils ont fait. Et ça rejoint ton projet.
Exact. Mais moi, à ce moment-là, je ne les connais pas. Là, moi, ce que je fais, c'est de façon anodine, je poste un truc sur un groupe de Facebook de femmes qui voyagent. Et je leur demande, je veux voyager sécuritairement, j'ai un handicap, est-ce que vous avez des propositions d'endroits que c'est sécuritaire pour une femme qui a un handicap? Moi, c'était vraiment comme très important. Et là, c'est là qu'il y a plein de femmes qui ont répondu, dont Edith, qui était sur ce même groupe-là. Et elle a répondu, elle a dit, oh mon Dieu, ce que tu racontes, c'est ce qui se passe dans ma vie. Elle dit, on peut-tu s'en parler? Et à partir de là, on a commencé à discuter ensemble. Et il était question que je parte en voyage avec eux.
Oh, OK.
Oui, mais là, il y a eu pandémie.
Oui, ça, là, on est en février 2020. Alors,
2020.
C'est juste avant que ça nous tombe dessus.
Ben oui, parce que pandémie, c'est début mars, là. Donc, quand on s'est parlé le 8 février, on pense même pas qu'il y a une possibilité de pandémie. Fait qu'eux partaient pendant l'été et moi, c'est supposé, elle m'avait dit « Regarde les destinations qu'on va, choisis-en quelques-unes, puis tu viendras nous rejoindre. » Fait qu'elle, puis elle voulait, elle était vraiment « Tu sais, moi, je veux que tu rencontres mes enfants, je veux que tu sois une alliée pour eux, tu sais, que tu leur amènes beaucoup d'espoir aussi. Dans, puis elle dit, j'ai besoin de toi aussi pour moi, mon chum, tu sais, pour les parents. » Parce que justement, vu que
ben, ton vécu de personne handicapée visuelle va faire en
exact.
Sorte que tu vas démystifier ça un peu pour la famille qui, elle, avait comme peur, et c'est normal,
ben, oui.
de ce qui leur
oui.
pendait un peu au bout du nez.
Exactement. Et dans le fond, la seule chose que les parents pouvaient faire, ben, c'est de dire on peut juste amener nos enfants à emmagasiner le plus d'images possible, parce qu'elles disent on ne peut pas ralentir la maladie. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, mes enfants rêvent de voir des girafes. Ben, on va aller les voir, les girafes, pour vrai. Fait qu'à partir de là, ils ont planifié le voyage. Puis là, c'est là que finalement, ça a été retardé ben, à cause de la pandémie.
Ben, à cause de la pandémie, au lieu qu'eux partent à l'été 2020, ben, ils
ouais.
sont partis au printemps 22. Mars
ça.
22, et puis...
ouais.
Mais tout de même, c'est intéressant de voir la dynamique... derrière ce souhait-là des enfants et le fait que les parents les amènent à faire le tour du monde, parce que d'une part, c'est pour leur permettre, comme tu dis, d'emmagasiner des images, puis en même
oui.
temps, de développer leur résilience puis leur capacité d'adaptation aussi.
Bien, en fait, ça a été la surprise. Parce qu'au départ... C'est vraiment de dire, OK, on part pendant un an. Oui, on va être déstabilisé. Bon, tout ça, parce qu'il y avait quand même déjà voyagé avant. Mais elle n'avait jamais pensé à ça parce qu'elle disait, mes enfants, ils ont quand même déjà une bonne capacité d'adaptation. Nous aussi, comme parents, on n'a pas peur. Eux autres, là, sont très bien dans l'imprévu, dans l'inconfort, sont nomades naturellement, les parents. Au plus difficile, c'est le retour à la routine. Parce qu'eux autres sont très bien dans un peu ce chaos-là.
D'accord.
Mais en voyageant, c'est là qu'ils ont réalisé que leurs enfants qui deviennent aveugles, ça va être ça leur vie. Ça va être un enchaînement d'événements où est-ce qu'ils vont devoir s'adapter. C'est comme si c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte que c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait leur offrir finalement, au-delà d'emmagasiner des images.
Exact. Parce que le fait d'emmagasiner, je t'avoue que quand j'ai vu des articles au sujet de la famille au début, de dire on fait le tour du monde avec nos enfants pour qu'ils puissent, trois de nos quatre enfants qui font de la rétinite pigmentaire, parce que je connais ça, je fais de la rétinite moi-même,
oui,
ma sœur
oui.
et mes deux frères aussi. Alors, je viens comme la famille Lemay-Pelletier, je viens d'une fratrie de rétinite pigmentaire.
Ah.
Et l'idée de dire, il faut qu'ils fassent le plus de choses possibles avant qu'il ne soit trop tard. Et c'était un peu repris comme ça dans les médias, parce que ça, évidemment, c'est écrit par des gens qui n'ont pas d'handicap. Alors, pour eux, le fait d'avoir un handicap, c'est la fin du monde.
C'est la fin du monde.
Voilà. Et je trouvais ça un peu malheureux, parce que ça, des fois, les médias rapportaient l'histoire comme si, c'est-tu plate être handicapé, après ça, il ne se passe plus rien. Puis là, je me dis, ben non, c'est pas comme ça que ça marche.
Non, mais ça, je suis d'accord, parce que dans les médias, il y avait vraiment quelque chose d'un peu sensationnalisme aussi,
oui.
tu sais, de... C'est dramatique. oh mon Dieu, ils vont devenir aveugles, mais on le sait, là, sociétalement parlant, là, il n'y a personne qui veut devenir aveugle. Il n'y a personne qui se lève un matin et dit « Oh tiens, ça me tente d'expérimenter.
La cécité,
aujourd'hui, je vais vivre avec un bandeau toute la journée. » Tu sais, mais non. Fait que c'est sûr que moi aussi, c'est ça que je voyais dans les médias, puis je me disais on passe à côté de la vraie affaire. Puis la vraie affaire, c'est vraiment la capacité d'adaptation. C'est la capacité de dire qu'un matin, ils vont se lever, ils vont voir quelque chose de différent, un bout de vue qu'ils ont pu quelque
oui.
Et là, ça va être de dire qu'est-ce que je fais avec ça. Parce que ça se peut pendant un moment donné, OK, qu'est-ce que je fais? Je panique, qui est normal, mais ça, c'est pas une fois. C'est que ça va être deux fois trois, fois quatre, fois cinq, fois. C'est ça aussi une maladie qui est dégénérative. Puis souvent, on va à l'extrême. On est comme, oh mon Dieu, hey, à quel âge là, qu'ils vont perdre la vie?
Ben oui. Puis c'est plate. À 30 ans, ils verront plus. Puis donc, leur vie va être nulle.
Mais on le sait. Puis, non, c'est ça. Puis en même temps, on le sait pas.
Exact.
Parce qu'il n'y a aucun médecin qui peut dire à 30 ans et des poussières.
La rétinite fonctionne pas tout à fait comme ça. Je peux en témoigner. Non, mais maintenant, ils sont revenus au pays, comme tu dis. Je m'excuse de mon erreur en début. Comment est-ce qu'ils vivent le retour maintenant? Comment ça se passe?
Ben, c'est ça, en fait. C'est que le retour, c'est ça qui est plus difficile, finalement. Parce que eux, ils se sont rendus compte que tout le temps qu'ils sont en voyage, là, puis que là, ils font le tour du monde, puis qu'ils ont l'espèce de... Pas de, tu sais, dans le sens, ils sont comme un peu dans un rêve.
Une
là,
bulle.
Les enfants voient plein de choses,
oui.
Une bulle, et là, les parents sont heureux parce qu'ils sentent qu'ils sont utiles. Puis là, quand ils reviennent, finalement, ils se rendent compte que, OK, mais là, on leur a fait visiter 13 destinations.
Puis pas les moindres, Namibie, Mongolie, Cambodge, Laos, Indonésie,
oui.
Égypte. Là, ils ont pas été au camping au bout de la route. Là.
Non. C'est ça, les girafes, les éléphants, ils ont vu pour vrai, ils ont vu les déserts, ils ont vu les pyramides. C'est un voyage de rêve, là, vraiment.
Oui.
Là, quand ils reviennent dans leur petite maison à Boucherville, puisque là, ils se rendent compte que, ben, quand même, on a 3 sur 4 qui deviennent aveugles. Et, ben, on peut rien faire, là. On peut pas ralentir la maladie. Puis, en même temps, on peut pas se mettre la pression de dire nous, comme parents, on va leur faire voir tout ce qui existe dans le monde.
Exact. On peut pas les envoyer dans l'espace, là, dans une navette, faire le tour de la planète, malheureusement. Puis
non,
c'est le quotidien
temps,
qui revient aussi. Puis,
c'est le quotidien, mais en fait, c'est ça, c'est dire que c'est ça aussi, là. C'est ça qui est le quotidien, là. C'est la vie aussi, là. C'est dire qu'on peut avoir une belle vie en allant à l'école, travailler, en faisant notre épicerie avec les gens qui sont autour de nous, les relations. Fait que dans le fond, c'est ça, finalement, qui est le cadeau que tu as rendu compte. C'est dire que, OK, ben là, on va juste vivre, finalement, là, après
exact.
Tout ça. Là.
Mais ces enfants ont dû changer pendant cette année-là, pas juste parce qu'un enfant change continuellement, mais ce qu'ils auront appris, ce qu'elles auront appris, ça va leur rester. Ça doit plus être les mêmes humains qu'au départ, de toute manière.
Non, mais ce qui est quand même intéressant là-dedans, là, c'est que quand tu leur parles, il n'y en a pas un qui a vécu son voyage avec le fait qu'ils deviennent aveugles au bout du chemin.
Ben non.
Ils sont pas là. C'est des enfants, tu sais, ils sont encore au primaire, le plus petit. Le plus petit, là, il a comme un petit quelque chose un peu plus que les autres, même s'il a 5 ans, là.
Le petit Laurent, oui.
Le petit Laurent, c'est lui qui dit, c'est quoi ça veut dire être aveugle? Tu sais, il y a des quand ils sont en train de faire un road trip dans le désert.
Ben ouais.
Fait que le petit bonhomme, c'est lui qui me pose le plus de questions. Il me demande pourquoi j'ai une canne, que j'ai pas un chien. Il veut voir mon œil. Celui-là, il voit plus. Non, c'est pas un vrai œil. Tu sais, il pose beaucoup de questions. Mais les autres là, sont vraiment juste dans, ben moi, je vis le moment présent. Puis moi, je suis contente d'être revenue parce que je vais voir mes amis à
ben
l'école.
Oui.
Puis
oui,
j'aime
oui.
ça, l'école.
5 ans puis 10, 11 ans, comme les plus dans la fratrie, c'est pas tout à fait le même contexte. Mais je suis content qu'ils soient revenus non seulement avec je suis content, très heureux, parce que c'est vraiment un voyage formidable qui va marquer leur vie, qu'ils aient accumulé toutes ces images, mais en même temps que la famille ait appris à vivre ensemble des épreuves, puis c'est la résilience et l'adaptation. Et c'est ça qui est nécessaire, parce que même quand ils vont avoir perdu la vue, là, la vie va continuer.
Ben oui, c'est ça qu'elle disait aussi, Edith. Elle dit non, à un moment donné, on sera plus là. Donc, nos enfants, eux, ils vont en avoir 3 sur 4 qui sont aveugles. Ben, on veut qu'il y ait aussi ça, cette capacité-là d'être en relation aussi.
Exact.
Puis, il ne faut pas oublier lui qui voit. Hein, parce que lui qui voit, là, c'est autre chose. Lui, tout d'un coup, là.
Oui, ben là, on rentre dans la relation de proche aidant éventuellement. Ben, merci beaucoup, parce qu'on va en parler de proche aidant dans 2 minutes avec Suzanne Lamarre. Psychiatre, c'est quelque chose qui, j'en suis sûr, t'intéresserait, le livre « Aider sans nuire ». Si tu ne l'as pas encore parcouru, je te le conseille.
Non.
Ben, merci beaucoup, Julie. On se reparle le mois prochain.
Toi.
Merci.
Merci. Bye. Bonne journée.
De retour, nous avons notre compagnie, la docteure Suzanne Lamarre, psychiatre et auteur ou autrice. 25 ans de pratique en psychiatrie et surtout dans des services d'urgence et face à des crises tout au long de votre carrière. Docteur Lamarre, bonjour.
Oui, bonjour, M. Beauregard. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et puis, j'ai des choses à ajouter.
Allez-y.
À ce que vous venez de discuter sur les yeux. Et que je vais, une phrase de Marcel Proust que je vais, avec laquelle je vais commencer mon lancement mercredi aux impatients.
Allez-y.
Je vous la lis. Le vrai voyage de la découverte n'est pas de rechercher de nouveaux paysages, mais c'est d'avoir de nouveaux yeux.
Oh! Oh là là, c'est bien ça!
Ouais.
Alors, ben, je vous remercie, ça me semble tout à fait juste. Et si vous avez entendu une partie de l'entrevue précédente, ben là, ça cadre tout à fait. Et je disais à Mme Châtelain il y a quelques minutes, parce qu'on commençait à rentrer dans le sujet justement à l'intérieur de cette famille, de l'idée ou de la relation de proche aidant et de personne qui est aidée. Et c'est tout à fait là-dessus que porte votre livre, deuxième édition. Revue et corrigée, aider sans nuire. Et la relation entre proche aidant et la personne aidée, ça peut être à la fois, ou bien ça peut être très toxique, ou bien ça peut être très porteur, et ça dépend vraiment de quelle façon on l'aborde.
Que vous dites bien ces choses, parce que c'est ce qui me désole, et puis moi j'appelle ça dans mon livre, parce que c'est la deuxième édition, mais il y a peut-être 80 % de plus, puisque il y a 25 ans que j'avais publié le premier.
Oh. 25 ans d'expérience et de lecture de votre part, ben là, c'est sûr que c'est plus du tout le même livre.
C'est ça. Et puis, je présente mes 4 révélations, la première étant dans le premier livre, mais ayant continué avec dans la première révélation, c'était justement autour du proche aidant. Comment réaliser que nos relations peuvent être toxiques, comme peuvent être bienveillantes, et que ça amène plus d'énergie que de nous vider de nos énergies. Et puis ça, c'est ce que j'appelle les rapports de réciprocité. Hein, on a parlé beaucoup. Oh, il fait pitié, on va s'en occuper. Oh, ben, on souffre ou on souffre avec lui. Puis, à un moment donné, on souffre tellement qu'on ne veut plus l'écouter parce que c'est trop dur. Et comment être dans un rapport de compassion? Puis, qui a été la neuroscientifique qui a bien étudier cet aspect de différence entre empathie et compassion.
D'accord.
Empathie, c'est souffrir avec. Compassion, c'est aider le souffrant, être dans un rapport chaleureux, mais le souffrant doit m'aider à l'aider.
Oui.
Et puis ça, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est ce que j'ai appris, moi, en psychiatrie. Quand j'ai commencé ma psychiatrie, il n'y avait pas du tout de ressources. Et je me suis aperçue que la personne clé était le patient et les siens, mais il fallait qu'ils s'entraident autrement.
Oui, parce qu'il y a une... comment je dirais ça? On peut imaginer les personnes qui vivent en situation d'handicap, et c'est entre autres mon cas, et de plusieurs des personnes qui nous écoutent, on ne veut pas de pitié. C'est la dernière chose qu'on veut. Puis si la relation commence à vraiment déraper... La personne aidante devient la personne qui souffre et qui est victime de la situation. Le rapport entre les deux devient tout à fait, inversé jusqu'à un certain point. La victime étant la personne qui doit vivre avec l'handicapé. Et là, ça dérape personne. Il n'y a plus personne qui s'aide dans un contexte-là. Soyons positifs, regardons plutôt les amorces de solutions. Dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup de l'autodétermination.
Absolument, oui. Puis ça, c'est...
Comment est-ce que vous la définissez? Qu'est-ce que c'est? Parce que l'autodétermination, quand on entend ça, on parle souvent, on pense plutôt à une idée politique, là.
Oui. Mais comment, si vous rencontrez, moi, ce que j'ai appris avec les bébés, quand j'en ai eu, c'est, oh my God, ils savent dire non. C'est le premier mot qu'ils puissent dire, peut-être maman, mais non. Alors, l'humain a ce millimètre de cerveau qu'on appelle le cortex, là, qui veut décider de lui-même. Il veut, mais d'un autre côté, il est dans sa vulnérabilité qu'il lui faut de l'aide.
En même temps, oui.
Alors, c'est comment devenir être son propre agent pour informer l'autre de ses vulnérabilités et pas se faire voler ses problèmes, mais partager, parce que mon cerveau tout seul, quand je reste dans mon cerveau tout seul, là, je radote.
Oui. Puis les choses prennent souvent des proportions énormes et ça devient nous contre le monde.
Ah, c'est sans fin. Alors, on sait que quelqu'un va se maintenir en santé, puis grâce à ma capacité à dire « je ne sais plus quoi faire, qu'est-ce que je vais faire ?» Et non pas, et puis ça me permet de définir le problème avec l'autre dans un contexte de sécurité, qui l'autre même, mais si l'autre se met à dire ben, « tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça », mais là, je suis foutu parce que si je ne le fais pas, il va me blâmer, tu aurais dû le faire.
Oui. Mais non pas. On entend le dialogue dans notre tête là, quand vous dites ça, oui.
Oui, alors, puis comment réfléchir, parce que c'est moi qui sais exact, qui sais vraiment comment aller avec ce handicap ou ce problème. Alors, c'est l'autodétermination, c'est l'interdépendance. Je ne suis pas indépendant et je ne suis pas dépendant. Un chien est dépendant, mais un humain, il y a ce millimètre de cortex là, qui fait qu'il veut que ça vienne, qu'il fasse partie de la solution.
C'est plutôt, comme vous dites, le sentiment d'avoir besoin d'une équipe et d'avoir besoin des autres. Mais en même temps, comme vous dites, il faut aider les autres à nous aider.
Exactement. Ça, il y a, et puis, on est prétentieux. On pense qu'on peut apporter la solution. On sait comment. Un instant, le beau poème, je sais à 20 ans. mais au moins à 60 ans, on vient à dire,
je sais que je ne sais rien. Ouais, voilà.
Ouais. Alors, puis ça, c'est nouveau dans notre dans l'humanité qu'on puisse réaliser que l'autre doit m'aider à l'aider, parce qu'on a tous été des sauveurs, on a eu besoin de sauveurs parce qu'on n'avait pas de sécurité, on n'était pas en guerre, c'était constamment des notions de compétition, ben, qui est le plus fort. Et on sait que de notre côté, la coopération, c'est ça qui va sauver l'humanité.
Et souvent, dans une situation, et là, je parle de point de vue des personnes qui sont handicapées, parfois, on va se complaire, parce que, comme à titre d'être vivant, là, il ne faut pas gaspiller notre énergie pour obtenir ce qu'on veut. Donc, on va avoir tendance à parfois abuser de la situation et ne pas devenir aussi autonome qu'on pourrait le devenir. Mais parce que il y a toujours quelqu'un qui va se plier à ce qu'on veut. Jusqu'à ce qu'on les use et que là, à ce moment-là, ils refusent totalement de nous aider, justement au besoin ou au moment où nous en aurions le plus besoin.
Ben, je vais vous dire, mon livre va aller très bien avec ce que vous savez déjà.
Tant mieux, parce qu'on peut penser qu'au sortir de la pandémie, ces problématiques de proches aidants dans des situations et de personnes aidées. Dans des relations en spirale vers le bas, ça a dû se multiplier dans votre pratique.
Ce qu'on entend, c'est, vous voyez, ça c'est l'autre dimension. Je voudrais revenir sur un point, puis arriver sur l'autre dimension. Le point que vous mentionnez, le pouvoir de la victime pour faire agir, c'est oublier son pouvoir d'agir avec ceux qui m'aident. Hein? Alors, c'est pas d'ignorer mon handicap, mais c'est de l'intégrer pour pouvoir aider l'autre à travailler avec moi. Et puis, on peut pas faire de l'autre un esclave, et comment on peut participer. Et puis, l'autre dimension dans le livre, c'est trop souvent, les troubles de santé mentale, on pense qu'il faut un expert. Ben, c'est évident que si je continue d'être victime et non pas être un agent pour voir mes vulnérabilités, ben, je vais vraiment devenir malade mentale. C'est certain. Alors, et ça, c'est ce que la psychiatrie traditionnelle nous a pas averti de ce danger, que c'est la santé, c'est un continuum avec la maladie en santé mentale.
Oui.
Et non pas, c'est pas comme le handicap physique.
C'est pas une rupture, exact.
Exactement.
Tout à fait. Ben, docteur Lamarre, on pourrait en parler encore et j'invite tout le monde à lire le livre « Aider sans nuire », parce qu'en fait, c'est plutôt « Aider en aidant » et on s'en reparle. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là.
Merci, M. Beauregard. Bonne journée.
Vous écoutez « Sans détour » avec François Beauregard.
Retour après la pause. J'ai vraiment le plaisir de recevoir ma prochaine invitée, Mme Sophie Marcotte. Bonjour, Mme Marcotte.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice, journaliste, vous êtes critique gastronomique, entre autres. Vous faites toutes sortes de choses dans la vie. Et vous êtes autrice, mais vous n'avez pas écrit un livre, vous n'avez pas écrit un Michelin ou un de beurre, là. Vous avez écrit un livre qui parle beaucoup plus de vous et de votre vécu. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Cancer, mode d'emploi », où vous vous livrez de façon très simple, puis en même temps très vraie, sur ce qui vous est arrivé à partir de votre diagnostic de cancer du sein.
Oui.
Pourquoi vous avez écrit ce livre-là?
J'ai écrit ce livre-là parce que quand j'ai eu mon diagnostic à l'été 2021, je cherchais des ressources ou des livres ou des sites Internet pour savoir un peu comment on fait pour vivre quand on sait qu'on a un diagnostic de cancer. Parce que j'étais vraiment atterrée. J'imaginais que j'allais passer mon temps couché en boule dans un coin à pleurer puis que je serais pas capable de fonctionner, tout ça. Donc, je trouvais pas grand-chose. Je trouvais beaucoup d'informations médicales, beaucoup de témoignages aussi purs et simples, mais c'est pas vraiment ça que je cherchais. Je me dis, on a des guides dans la vie, des guides pour bien vivre un deuil, des guides pour
Préparer notre retraite ou des choses aussi simples que ça.
Oui. Le divorce, élever ses enfants, accueillir son enfant, tout ça. Puis je me disais, tu sais, il y a tellement de monde qui reçoivent un diagnostic ou qui connaissent quelqu'un qui en a un. Puis on ne sait pas comment, quoi faire avec ça, on dirait, quand ça nous arrive. Si je me rendais compte qu'on avait peu d'informations sur comment ça se passe au quotidien, c'est quoi les émotions qu'on vit, les différents examens, ça ressemble à quoi un peu, mais aussi humainement, comment on passe à travers ça, là, pas juste décrire c'est quoi un IRM ou un TACO.
Exact. Ben, si vous voulez, on va en parler ensemble, Mme Marcotte, parce que moi, j'ai eu le cancer. En 2012, puis votre livre, là, c'est 90% ma vie, OK? J'ai pas de cancer du sein, parce que chez les hommes, c'est pas fréquent, là, mais j'ai eu un cancer de la prostate, puis j'ai eu un cancer de la gorge, et puis là, le cancer de la prostate est revenu sous une forme plus avancée. Alors, chimio, radio, chirurgie, tout ce que vous dites, là, moi, je peux vous dire que pour quelqu'un, si quelqu'un nous écoute, là, moi, je peux vous le dire en première ligne, là, le livre de Mme Marcotte, là, il est on the spot. Il est très juste. Et vous abordez tout ça. La première chose peut-être qui va surprendre des gens, c'est qu'il y a de l'humour dans ce que vous faites.
Oui, c'était quelque chose d'important pour moi parce que, ben, d'un, je me suis rendu compte en côtoyant des gens là, pendant mes traitements, tout ça, que l'humour, c'est une bonne soupape quand on a un cancer, là, puis que tous les gens que j'ai rencontrés presque faisaient vraiment beaucoup de blagues. Au début, ça me mettait presque mal à l'aise, là. Ils faisaient vraiment des blagues de cancer, des fois un peu douteuses.
Oui.
Je me rendais compte qu'on en riait de bon cœur, puis ça faisait du bien, ça rendait ça un peu plus léger. Donc, ça a été quand même difficile là, de trouver le bon dosage parce que je voulais pas non plus faire un livre drôle parce que bon, c'est pas un sujet drôle, mais je tenais à mettre quand même de l'humour pour alléger ça puis refléter un peu comment les gens qui ont un cancer ont en général quand même de l'humour. Alors, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, puis je sais qu'il y en a qui ont des cancers très graves, puis c'est pas le cas, là, mais... C'est ça, je voulais quand même...
Parce que d'ailleurs, au début du livre, vous avertissez quelqu'un qui vient peut-être tout juste d'avoir un diagnostic, que peut-être le livre le ton du livre va peut-être justement augmenter la colère qu'on a au tout début de cette aventure-là. Parce que vous, maintenant, après quelques années de recul, puis tout ce que vous avez vécu là-dedans, ben là, vous êtes capable d'avoir un peu de recul et d'être par moment faire un petit sourire en coin. Mais quelqu'un qui vient tout juste de recevoir un diagnostic, là, la terre vient de s'ouvrir sous ses pieds.
Complètement, oui. Puis c'est pour ça que je voulais mettre l'avertissement parce que tout le long de l'écriture, ben en fait, je l'ai écrit, moi j'étais encore je n'avais pas fini là, mon parcours de soins, mais donc j'avais pas tant que ça de recul, mais je pense que j'avais tout le temps eu un peu cet humour-là. Mais bref, je gardais toujours en tête que je voulais pas froisser personne en mettant un peu de légèreté dans ce livre-là. Donc j'ai fait un avertissement au début. Et j'en refais un à la fin aussi, je m'excuse presque d'avoir peut-être froissé des gens avec ces petites touches-là, qu'on trouve aussi dans les illustrations d'ailleurs, parfois sont un peu amusantes, mais c'est ça, c'est difficile d'essayer de trouver le ton pour ne pas choquer personne quand on sait que c'est un sujet très... quand ça nous arrive, c'est terrible. Là, puis on n'a pas le cœur à rire, c'est ça.
Ben, oui, puis vous parlez aussi du fait que souvent dans l'esprit des gens, le mot cancer, là, c'est aussi pire que d'entendre le mot mort. C'est comme si on était condamné à une mort rapide là, et affreuse. Mm-hmm. Puis c'est pas le cas. On peut vivre avec.
Effectivement, ça c'était une autre chose que je voulais montrer avec le livre, puis c'est pour ça aussi qu'il y avait un peu d'humour, mais je me suis rendu compte que la plupart des gens en guérissent, ou en tout cas, peut-être qu'on guérisse plus tard, mais on en meurt plus tant que ça quand même du cancer comparativement aux années 80 par exemple, ou avant, là, mais avant un diagnostic de cancer du sein par exemple, j'ai plusieurs amis qui ont perdu leur mère comme ça. Alors que maintenant, c'est quand même assez rare. Ben, rare. En tout cas, j'ai pas les chiffres, là. Puis d'ailleurs, je voulais pas mettre de chiffres dans le livre, là, parce que j'aime pas trop ça, les statistiques de survie et tout ça. Mais C'est ça, je voulais montrer que ben, il y avait de la vie quand même dans le, on va dire l'aventure du cancer, puis que effectivement là, malgré tout ce qu'il y a dans, souvent aussi dans les œuvres de fiction, il y a toujours quelqu'un qui est mort du cancer, on dirait, là, ben on n'en meurt pas. On n'en meurt pas tant que ça, c'est souvent. Là.
Souvent aussi, autour de nous, on peut se retrouver dans une situation paradoxale où il faille annoncer à nos proches qu'on vient d'avoir un diagnostic de cancer. Et ça, c'est un peu curieux dans le sens où parfois, il faut quasiment les consoler du fait que nous, on soit malades.
Ouais. Quand même, ben, moi, j'ai trouvé ça très difficile à faire.
Avec vos enfants, entre autres, je pense.
Ben, non, moi, j'ai pas d'enfants, donc c'est un témoignage d'une de mes, de deux de mes amis que j'ai mis qui l'ont annoncé à leurs enfants. Mais moi, j'ai trouvé ça difficile de l'annoncer à mes parents.
Oui,
parce
d'accord.
Parce que je me disais, tu sais, peu importe l'âge de notre enfant, même si je suis dans la quarantaine, ils vont être démolis, ils vont s'inquiéter, ils vont avoir de la peine, ils vont être stressés, puis ça, ben, j'étais pas bien là, de leur faire vivre ça. Je sais bien que c'est pas de ma faute, là, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très, très délicat à faire. Donc, c'est ça, j'offre quelques conseils, là, par exemple, de déléguer cette tâche-là à quelqu'un d'autre. Des fois, ça peut être bénéfique parce que c'est quand même une lourde charge émotive aussi qu'on reçoit quand on annonce à nos proches qu'on a un cancer, là. Donc, ça peut être un peu lourd à porter en plus de ce qu'on a déjà là, sur les épaules. Donc, je trouvais que c'est un bel exemple de choses qui nous arrivent quand on a un cancer puis dont on n'a jamais entendu parler. Ah, va falloir l'annoncer puis ça va être difficile.
Oui, tout à fait. Oui, puis je peux comprendre pour vos parents. Il n'y a pas un parent qui veut imaginer que son enfant puisse mourir avant lui ou avant elle. Il y a aussi les gens qui nous entourent qui, parfois, veulent nous faire du bien, mais n'utilisent pas toujours les bons mots.
Oui, ben, vous l'avez sûrement vécu. Vous aussi.
T'es chanceux, c'est pas un gros cancer, ça, finalement.
Oui, c'est ça. On est très chanceux. Mais on comprend ce qu'ils veulent dire. On comprend qu'ils veulent dire que t'as pas un cancer du cerveau incurable puis qu'il te reste juste 3 mois à vivre, par exemple. Je comprends. C'est juste que des fois, les formulations, puis par exemple, t'as un bon cancer.
Oui, c'est ça.
Je comprends, là, mais ça se dit pas. Puis, honnêtement, là, on préfère dire, entendre quelque chose de je sais pas, de plus... J'aime mieux entendre quelqu'un me dire, écoute, je sais pas quoi te dire, je suis sans mots, mais tu sais, je suis là.
C'est ça.
Puis, ou me proposer des choses concrètes aussi, comme je vais t'apporter à souper, ou veux-tu venir marcher avec moi, tout ça. C'était des choses qui me faisaient vraiment plaisir.
Exact. Si tu veux en parler, je suis là.
Oui,
Parce que parfois, ce que les gens nous disent pour nous réconforter, c'est comme une sorte de positivisme très vide. Genre, t'es forte, tu vas t'en sortir. Ouais. Mais en fait, non, on n'est pas vraiment fort. Puis des fois, ça va pas bien. Mais je pense que souvent, de nous dire des choses très factuelles, comme t'as-tu besoin d'un lift pour aller à ta chimio, ouais. Là, ça, c'est fin.
Oui, c'est ça, des choses pratico-pratiques. Là. C'est vrai que c'est plus réconfortant que de juste se faire dire, ah, ça va bien aller. Effectivement, t'es forte. Des fois, on se sent pas fort pantoute, là. Puis, des fois, oui, là, mais c'est ça. Des choses concrètes, proposer son aide, son écoute. Moi, c'est ce que je préférais, en tout cas. Ou des fois, juste un petit texto, là. Ah, je sais que c'est ta chimie aujourd'hui, je pense à toi. C'est pas long, puis ça fait tellement plaisir.
Oui, tout à fait. Et dans votre livre, vous parlez aussi, puis ça, je sais que ça peut avoir l'air facile ou bon, mais c'est vrai qu'il y a un avant puis un après. Il y a comme avant le diagnostic, puis après le diagnostic. Et parce qu'on rentre dans un effort de guerre totale là, pendant un petit bout de temps, puis notre façon de voir la vie change.
Ben, c'est sûr, là.
C'est vrai.
On a beau dire que ça n'équivaut plus à la mort, c'est quand même une maladie grave, là.
Avec des traitements qui sont pires que les sensations qu'on a de la maladie quand on reçoit le diagnostic.
Oui. Hein,
parce que quand on a le diagnostic, on sent bien. Hein, c'est comme recevoir une lettre de l'impôt puis se faire une vérification. Ça allait bien jusqu'à ce que j'ouvre l'enveloppe.
Exactement.
Puis c'est souvent les traitements qui sont plus ou moins... Oui. Pénible, là, mais souvent plus pénible que moins.
Oui, c'est sûr. Puis, mais c'est sûr que ça regarde aussi les priorités après, là, de. Des fois, ça précipite des projets qu'on avait. C'est comme moi, j'avais le projet d'aller vivre à la campagne quand je serais dans la soixantaine. Ben là, je vais là, là. Puis, c'est ça. On veut réaliser nos rêves plus vite. Ça change beaucoup de. Ça change la perspective sur nos priorités puis sur la vie en général.
Peut-être que, comme d'autres, vous avez réalisé que, un, on se choque moins pour des petites choses.
Oui.
Puis on chérit davantage les relations qu'on a avec les gens. Parce qu'on a cette notion que le temps est compté, puis que c'est pas toujours. Comment est-ce que ça? On prend moins les choses pour acquises, hein? On va dire.
Vraiment.
On va dire ça de cette manière-là. Dans votre livre, ce que je trouve formidable pour les gens qui. Malheureusement, vont obligés de vivre cette expérience-là, c'est que vous détaillez bien comment ça se déroule. Parce que au moment du diagnostic, on ne nous dit pas tout de suite toutes les étapes qu'on va avoir à vivre, là, que ce soit la chimio, la radio, comment on se sent, comment ça se passe, comment ça nous affecte. Puis, mais vous le faites comme petit à petit. On peut imaginer quelqu'un qui lit des petits bouts de votre livre au fur et à mesure qu'elle est devant cette situation-là.
Ouais, je pense que c'est la façon la plus facile de progresser dans ce parcours-là. Là. C'est, là, je suis rendue à la radiothérapie, mais je vais lire le chapitre sur la radiothérapie. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils l'ont lu en 2 heures, puis eux, ils voulaient vraiment tout savoir maintenant comment ça allait se passer au complet. Mais je pense que de le prendre par petit boucher, ça peut aussi être moins peurant.
Parce que dans votre cheminement, où est-ce que vous en êtes rendu en ce moment? Est-ce que vous êtes pas encore en rémission?
Oui, je suis en rémission juin de l'année passée. Donc, ça va faire un an dans un mois et demi à peu près. Ouais.
OK. Mais vous, est-ce que vous y pensez encore des fois? Parce que c'est un peu comme...
J'ai des traitements pour bloquer mes hormones.
D'accord.
Donc, pour provoquer une ménopause. Donc, j'y pense souvent parce que je prends des pilules à tous les jours pour
vous
ça.
Aussi?
Je peux faire des injections une fois par mois. Ouais. Puis, j'ai des suivis. Donc, pour vrai, j'y pense moins que je pensais que j'allais y penser. Pensais que j'y penserais tous les jours. Puis, honnêtement, des fois, je peux être 2-3 jours sans y penser. Puis, des fois, je repense à ça. Puis, je me dis, on dirait que j'ai eu un cancer. On dirait que c'était comme un rêve, un cauchemar, plus. On dirait que c'est une période tellement intense. Puis, où on vit des choses auxquelles on n'était peut-être pas toujours préparé. Que des fois, j'ai l'impression que c'était comme dans un brouillard, un peu. C'était long, mais finalement, ça passait vite. C'est bizarre.
Oui, ben vous avez raison. Puis quand vous dites des choses pour lesquelles on n'est pas toujours préparé, ben je vous remercie beaucoup, Mme Marcotte, parce que moi, je peux vous dire que votre livre est une bonne façon de se préparer une fois que le diagnostic est tombé. Il faut faire face. Mais d'avoir quelqu'un qui est passé par là, vous êtes la meilleure guide, vous êtes la mieux placée pour accompagner quelqu'un dans votre livre. Et ça leur permettra peut-être de rencontrer d'autres personnes sur leur chemin qui vont avoir eu le même vécu. Alors, au nom de tous ceux ou celles qui vont avoir à vivre cette malheureuse aventure, là, je vous remercie d'avoir fait un petit livre qui va nous aider à passer au travers.
Ben, ça me fait plaisir, c'est ça le but, puis je vous souhaite à vous que tout se passe au mieux.
Ben oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes gentil. Merci.
Merci.
Ah, la saison des impôts. On est le 1er mai, puis le 1er mai, c'est la date à laquelle nous devons payer les impôts que nous devons. C'est la date limite pour remettre sa déclaration de revenus. Alors, oui, il est trop tard pour 2022 en grande partie, mais c'est peut-être un bon moment pour s'interroger un peu sur 2023 puis essayer de faire les choses différemment. Pour nous aider dans ce contexte, je suis heureux d'accueillir M. Guillaume Joseph, qui est directeur général de l'Appui pour les proches aidants. Bonjour, M. Joseph.
Bonjour, M. Beauregard.
Ça va bien?
Oui, merci.
Parfait. On va parler d'impôts, puis c'est sûr que quand on parle de proches aidants, il y a toutes sortes de dynamiques. On en a parlé un petit peu plus tôt au cours de l'émission avec Dr Lamarre, entre autres. Il y a toutes sortes d'autres choses qui... Mais il y a un aspect fiscal, il y a un aspect financier, parce que la proche aidance, ça coûte cher.
Ben effectivement, c'est une triste réalité pour beaucoup de personnes qui prennent soin ou qui aident, soutiennent une personne qui est atteinte, soit psychologiquement, physiquement. Cette réalité-là, c'est souvent un appauvrissement parce que ben on va aider pour aller faire des courses, on va aider pour aménager la maison, on prend charge de certaines responsabilités qui trop souvent, dans certains cas, surtout chez ceux là, que le soutien est plus intense, disons, on va avoir des pertes de revenus parce qu'on doit réduire ses heures de travail parfois. Il y en a certains qui doivent arrêter de travailler.
Abandonner, oui, tout à fait.
Exact. Puis, bon, des fois, ça peut être très ponctuel, mais dans la situation de parents, d'enfants qui présentent des limitations, des handicaps, c'est pas rare qu'il y ait une personne dans le couple qui va complètement justement cesser. Et là, on parle de dizaines d'années là, où cette situation-là peut être présente.
Alors, pour essayer de pallier à tout ça en partie, les gouvernements, autant au Québec que le gouvernement canadien, ont mis en place toutes sortes d'aides fiscales, mais c'est pas une chose simple et monolithique. Là. C'est comme une myriade. C'est comme un dédale de mesures fiscales. Et c'est là que, parfois, finalement, ça ne touche pas la cible parce que c'est comme trop compliqué.
Ben exact. Puis je vous dirais, sans vouloir avoir une critique trop forte des mesures en place, mais vous dites myriade, mais en fait, je ne me rendrais même pas à myriade.
OK. Une poignée.
Oui,
voilà.
Arrêtons-nous là. Quelques crédits d'impôt pour les proches aidants. Donc, il y en a au fédéral, il y en a un au provincial aussi. Mais il n'y a personne qui va se mettre riche avec ça, on s'entend. Et d'ailleurs, il faut avoir déjà des revenus. Il faut pouvoir payer de l'impôt pour pouvoir profiter de ces crédits-là. Il y a différentes conditions qui s'appliquent aussi. Maintenant, c'est pas rien. Ça peut faire une belle différence quand même. Mais on parle de quelques milliers, 2000 $ là, environ là, dans chacun des paliers d'impôts. Maintenant, il y a d'autres, effectivement, là, il y a d'autres mesures pour les personnes atteintes qui, elles aussi peuvent bénéficier de mesures fiscales ou de certaines mesures. Mais il n'y a pas, vous l'avez nommé, il n'y a pas d'allocation. Et en fait, on ne fait pas exception des autres provinces canadiennes ou d'autres pays. C'est très rare, là, les États qui ont des rémunérations, des allocations, à proprement dit, aux proches aidants. On peut comprendre que c'est d'une grande complexité parce qu'entre une personne qui va apporter une aide à raison de 2 heures, 3 heures par semaine versus...
24-7.
Du 24-7. C'est des réalités différentes.
Et ça peut dépendre du lien aussi. Ça peut être un parent vis-à-vis ses enfants ou ça peut être un enfant adulte vis-à-vis ses parents âgés. On peut ne pas être dans la même résidence ou on peut vivre sous le même toit. Alors, toutes ces nuances-là, ça commence à être difficile d'application de créer une allocation directe.
Exact. Et là, on a une vraie myriade de parcours.
Oui,
Il y a tellement de situations différentes. Mais je vous dirais que, bon, si on veut se concentrer effectivement sur ce qui existe, parce que il y a des gens, des groupes qui demandent justement des ajustements. Mais sur ce qui existe, prenons justement les crédits d'impôt, ils sont là, parlons-en, même s'ils existent, sont très peu utilisés au Québec.
Oui.
Et là, comparativement à d'autres provinces, on voit que c'est très peu utilisé. D'un, les gens ne les connaissent pas, première chose, ou s'ils les connaissent, ben faut s'assurer c'est sûr que si on a un comptable, ça aide.
D'accord.
Beaucoup, parce qu'ils vont pouvoir nous aider à remplir, à y penser, à voir ce qu'on peut tirer le maximum. Mais encore faut-il, puis là, c'est là que c'est important peut-être d'amener cette lunette-là, c'est que pour savoir que ces crédits d'impôt-là existent, il faut toujours se reconnaître.
Il faut les chercher. Et pour les chercher, ouais, c'est parce qu'on s'identifie. L'appui, l'organisme auquel vous êtes rattaché, vous avez fait une étude justement l'automne dernier.
Oui, exact. Et ce qu'on voit, c'est que d'un, il y a encore beaucoup de personnes qui s'ignorent comme proche aidant. Puis là, c'est important de dire que pour nous, l'important, c'est pas de mettre une étiquette sur le front des personnes en disant « je suis proche aidant ». Mais puis c'est normal, comme je disais tantôt, l'exemple d'une personne qui va aider un proche de sa famille vieillissant, par exemple, ou qui a une limitation, qui va donner une heure semaine, deux heures semaine, c'est normal qu'il ne s'identifie pas comme proche aidant. Mais même parmi les personnes qui se font du 24-7, il y en a plusieurs qui ne s'identifient pas comme proche aidant, et entre autres, les parents d'enfants qui présentent des handicaps ou qui ont des limitations. Ils se voient comme parents, et c'est aussi, c'est normal, mais...
Ce sont des parents, on leur enlève pas ça, mais...
Exact, mais ils font plus, et sur une plus longue période, vont avoir à assumer des tâches que d'autres parents n'auront pas à maintenir dans le temps, et eux ont droit à ces crédits-là, mais il faut qu'on puisse, faut qu'ils puissent se reconnaître pour pouvoir aller les chercher.
Est-ce que cette, je dirais, ce passer à côté, si on peut appeler ça comme ça, est-ce que c'est plus prononcé au Québec que dans d'autres régions du Canada? Je vous pose la question parce que, du point de vue des personnes en situation de handicap, l'utilisation du crédit d'impôt pour personnes handicapées est plus faible au Québec parce que les Québécois, en général, ne s'identifient pas aussi facilement à titre d'handicapé. Est-ce qu'en plus, on s'identifie pas aussi facilement à titre de proche aidant?
Ben, vous voyez, vous en savez probablement effectivement le plus que je pourrais vous en dire sur les personnes effectivement avec des handicaps. Les données sont rares, mais les quelques données qui datent de quelques années nous montraient par exemple que comparativement au Manitoba, c'était de l'ordre là, de 4 fois moins de personnes qui font appel à ce crédit-là. Puis on sait que la prévalence là, des limitations, des handicaps,
ben,
est
la même dans
toutes les proportions.
Ben oui, on peut pas passer que... Là. Oui, tout à fait. Ben, alors, c'est curieux, c'est quasiment comme presque culturel qu'au Québec, qu'on soit proche aidant ou handicapé, on s'identifie pas. C'est un peu un mode de pensée, je dirais, là,
d'acceptation
ou de résignation en disant « c'est la vie qui me met dans une telle situation », puis... J'ai pas le droit de lever la main en disant j'ai besoin d'aide, c'est terrible.
Exact. Puis vous savez, il y a peut-être quelques pistes de nous, on rencontre plusieurs proches aidants. D'ailleurs, on avait une balado animée par Marie Marcini où des gens venaient nous parler des proches aidants, de leur réalité. Puis la bureaucratie, entre autres, là-dedans. Et ça, c'est peut-être une différence qui vaut la peine d'être suivie. C'est-à-dire, pour avoir recours à ces crédits-là, souvent, il faut avoir des attestations. Et bon, ceux qui naviguent là-dedans sont très bien au courant de tout ça. Et d'avoir à chaque année à courir après des professionnels pour avoir le rendez-vous, pour avoir aller chercher un papier, alors que la situation du proche soutenu, on s'entend qu'elle, dans bien des cas, elle évoluera pas. Là, la maladie ne disparaîtra pas ou l'handicap ne disparaîtra pas. Et avec toutes les contraintes du réseau de la santé,
ça devient très lourd. Ouais, vous avez raison. Puis pour terminer, j'aimerais, M. Joseph, les gens doivent savoir que votre organisme, puis qui en regroupe beaucoup d'autres, là, vous avez une ligne Info Aidant, hein, un service téléphonique qui est disponible 1-855-852-7784. C'est tous les jours de 8h à 20h et c'est confidentiel, c'est professionnel, puis ça pourrait peut-être aider les gens à y voir clair, si je peux dire.
Absolument, merci de le nommer. Puis juste pour gérer les attentes des gens, évidemment, ce ne sont pas des fiscalistes ni des comptables.
Non, mais au moins, on peut peut-être faire un premier pas. Voilà.
Mais on a des ressources à donner aux gens. Puis près de chez eux, ils pourront aller chercher de l'aide pour les aider dans les questions fiscales ou pour d'autres types de services.
Super. Bonjour.
C'est Sans détour avec François Beauregard.
Ben, c'est gentil, les applaudissements, mais ce n'était peut-être pas pour nous, c'était peut-être pour des musiciens qui allaient se faire entendre, je ne sais pas. Mais enfin, croyez-moi, nous n'avons pas un auditoire en direct ici, à part de Jennifer et Mathieu de l'autre côté de la vitre. Là. Enfin, longue histoire courte. Bonjour Esther.
Bonjour François.
Alors voilà, on est finalement de retour à Bonport.
De retour.
D'une longue, si je peux dire, d'un long périple. Encore une fois, on a fait un petit peu le tour du monde et on va partager ça avec nos auditeurs. On va faire ça d'une façon sereine, hein, même si parfois les sujets peuvent être un peu désarçonnants. Alors, on commence par en France.
Oui, en fait, ce mercredi de la semaine dernière, il y a eu la conférence nationale sur le handicap qui était on en parlait depuis quelques temps quand même. Et Emmanuel Macron, le président, a fait des annonces très positives. En fait, d'abord, il a souligné qu'il y a 12 millions de personnes handicapées en France, donc c'est loin d'être à mettre à l'index.
Oui, et il faut dire que cette conférence, c'était la sixième, qui a lieu tous les trois ans. Le président Macron avait, d'ailleurs, dès son premier quinquennat, annoncé que ce serait les mesures ou l'inclusion, l'accessibilité était parmi ses priorités de son premier quinquennat. Bon, mais là, il est rendu au deuxième. On va lui donner une chance au coureur. Mais il a donc annoncé des mesures, tout un train de mesures.
Oui, quand même. Hein. En fait, dans la dernière conférence nationale, comme vous le disiez, on avait parlé d'accessibilité universelle, d'inclusion à l'école, la mobilisation pour le plein emploi et la simplification de l'accès aux démarches administratives et à l'offre médico-sociale. Ben, en fait, cette année, il a poussé encore plus loin ces belles intentions et il a mis du budget supplémentaire, particulièrement pour les écoles, mais en fait, pour à peu près toutes les mesures. Donc, il y a vraiment des ouvertures. Il veut vraiment faire un effort. Il veut souligner le fait que dans le fronton, naturellement, de la France, on parle d'égalité.
Entre autres, oui, fraternité, oui, c'est bien. Et liberté, voilà. c'est super. Mais égalité, malheureusement, c'est pour 12 millions de Français, ça y est pas tout à fait. Et donc, c'est 70 mesures dans toutes sortes de domaines. On parle de voir à la présence de professionnels aidants dans chaque école pour aider les enfants en situation de handicap qui seraient en difficulté, des efforts d'accessibilité au logement, au travail. C'est une mobilisation vraiment pour le plein emploi, la simplification de l'accès aux démarches administratives, tout ça. Alors, c'est énorme.
C'est énorme. Et en particulier, on va souligner quand même une nouvelle qui est, je dirais, encore plus sensible parce qu'il y a une volonté du gouvernement de généraliser le dispositif Handigénico qui prévoit un accompagnement gynécologique, en fait, qui va permettre de mieux détecter les violences sexuelles faites sur les handicapés. Ce n'est pas rien.
Oui, tout à fait, parce que il y a eu un projet pilote dans la région de l'Île-de-France. Et une étude qui a été menée de 2018 jusqu'à la fin 2019, juste avant la pandémie, que sur les 434 femmes vues en consultation gynécologique, 111, on parle de femmes vivant en situation de handicap, 111 ont déclaré des violences parfois multiples. Et on sait ici au Québec, pour en avoir parlé à quelques reprises à notre antenne, à Sans détour, d'ailleurs nous aurons quelqu'un qui nous en parlera davantage à la situation au Québec des femmes, la pénible situation des femmes en situation de handicap au Québec face à la violence. On s'en reparle la semaine prochaine, mais on le sait que c'est quelque chose qui est généralisé partout dans toutes les sociétés. Alors, la France veut faire quelque chose particulièrement.
On est très, très heureux de la chose, vraiment.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment important.
Cette mesure de faciliter la communication, la prise en charge, d'abord, il faut que le lieu soit accessible. Il ne faut pas non plus que le professionnel de la santé d'office refuse de prodiguer des examens gynécologiques parce qu'il n'est pas équipé, ça ne tente pas, puis ça va être compliqué. Là.
Exactement.
Ça, c'est des réponses qu'on nous donne encore de nos jours. Voilà. Alors, on espère que cette politique annoncée par
Emmanuel Macron.
Oui, voilà, oui. Que ça tienne la route, mais c'est quand même très bien.
Oui, c'est un bel apport.
Ça arrive peu de temps après que la France se soit fait taper sur les doigts, par l'Organisation des Nations Unies, comme quoi, à titre de signataire de la Charte des droits des personnes handicapées, la France n'était pas tout à fait à niveau.
Voilà, alors, c'est bien ça. Les efforts sont maintenant faits. La volonté de faire les efforts,
on
verra.
Oui. Voilà.
On verra la suite.
On traverse la Manche.
Oui, et on a justement la revue, le magazine Vogue UK. United Kingdom.
United Kingdom, voilà, qui va bientôt avoir son couronnement, là, le roi Charles III, là, c'est samedi prochain.
Oui, c'est vrai.
Alors, si vous aimez les gros trucs là, avec les chevaux, puis les carrosses, là, puis tout le monde qui ont des plumes sur la casquette, ça c'est samedi matin. Mais voilà, donc à Londres...
Oui, en fait, c'est que le magazine aussi, Vogue, s'était fait taper sur les doigts.
Oh.
Justement parce qu'au niveau du handicap, on excluait sincèrement toute personnalité du domaine. Et là, on fait un apport, on ouvre les portes, on fait des unes avec Selma Blair, atteinte de sclérose en plaques, Sinéad Burke, blogueuse de petite taille. En fait, plein de couvertures inspirantes pour recadrer la mode.
Bravo!
Justement. Donc, on fait un grand effort et ça va continuer pendant plusieurs mois. On veut vraiment souligner... En fait, le mannequinat, toutes les dames, les dames ou les hommes, naturellement, qui sont dans le domaine, qui sont handicapées, mais qui sont quand même, qui font quand même carrière dans le domaine.
Ben oui, puis on aime ça être bien habillé. Voilà.
Mais voilà, pourquoi pas.
Et la rédaction a même sollicité l'aide du Royal National Institute of Blind People de Londres, une association, évidemment, dont on peut deviner... la mission, pour réaliser des versions, des éditions en braille et même en version audio de Vogue. Alors, peut-être qu'ils vont faire de la photodescription parce qu'on sait que ces magazines-là, c'est beaucoup, beaucoup de photos. Ben, rappelons-le, l'occasion des Paralympiques à Rio.
Voilà.
Il y a 7 ans, Vogue UK avait fait un numéro spécial paralympique où, en fait, c'était des mannequins valides qui avaient été photoshopés pour les rendre en situation d'handicap. Hein.
Sa grande bévue, oui.
Ben, rendre, pas virtuellement, là. On a pris une photo de quelqu'un qui avait 2 bras pour lui en enlever un parce que, comme quoi, il y avait vraiment personne en situation d'handicap qui aurait pu être mannequin. Alors, c'était très insultant.
Oui, on s'était vraiment pas cassé la tête à ce moment-là. C'est sincère.
Non, non.
Là.
Et ça venait, d'une perspective navrante. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. On va vers l'avant.
Ils se reprennent bien.
et on se retrouve encore pour une start-up.
Oui, en fait, à Toulouse, une start-up qui s'appelle
Phil Object, qui est une start-up.
En fait, qui développe des tablettes pour aider les non-voyants à s'orienter dans des lieux qu'ils ne connaissent pas. Donc, normalement, naturellement, pour une personne qui est semi-voyante ou non-voyante, arriver dans un nouveau lieu, c'est quand même un gros aria. Il y a beaucoup de tâtonnements pour savoir où aller. D'ailleurs, il y a des gens qui nous disaient que, en fait, dans cet article-là, qui souligne que ça peut prendre 30 minutes à trouver une salle de bain lorsqu'on est non-voyant.
Oui, oui. Quand vous êtes non-voyant dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous êtes mieux de penser à la nécessité d'aller à la salle de bain un peu d'avance, parce que si c'est difficile de trouver le lieu en question, ça se complique rapidement.
Donc, on a fait c'est une application, mais je pense, c'est vraiment une tablette.
C'est un objet qui se transforme.
Oui, il y a des plans dedans. Ça s'appelle Virtuose, en fait. Et justement, il y a un assistant sonore et il y a des reliefs. La tablette est équipée de reliefs pour faire un plan. Oh. Donc, les personnes malvoyantes ou aveugles qui ne peuvent pas s'orienter dans des environnements encore connus vont facilement se retrouver... Parce que c'est vraiment facile en touchant. On peut détecter quel lieu, les escaliers, les rampes.
Et en même temps, il y a un accompagnement sonore.
Voilà, qui donne des informations supplémentaires.
Alors ça, c'est en France. Vous savez que quand on dit start-up et fil object, c'est un petit clin d'œil parce qu'on trouve ça amusant que l'utilisation de mots anglais à répétition, mais on est très content du travail qui se fait là-bas. Faut pas prendre ça au premier degré. Hein? On vient de ce côté-ci de l'Atlantique, on s'en va à Haïti.
Oui, à l'occasion de la grande finale de la deuxième édition du concours national de slogans de l'Institut haïtien de langue des signes, IHLS, le responsable a procédé également au lancement du projet intitulé « Accès à l'information et à la formation professionnelle » au profit des personnes handicapées, les sourds en particulier, en fait, les personnes vivantes.
Ben oui, on peut le penser parce que la langue des signes, c'est dans leur créneau.
Oui, voilà. Alors, réalisé en partenariat avec le Centre de communication adaptée du Canada, donc...
On peut être fier, y est pour quelque chose.
On a mis l'épaule à la roue. Oui, voilà. Le ministère des Relations internationales du Canada a financé une partie. Donc, il y a deux volets parce qu'il y a aussi...
Il y a une sorte de capsule qui est faite, qui est rédigée ou qui est en fait en langue des signes haïtienne, qui porte sur le choléra, parce qu'évidemment, les maladies infectieuses qui font des ravages là-bas, ben, il faut que les gens connaissent les mesures d'hygiène, comment réagir, les soins, ainsi de suite. Alors, il y a eu une capsule vidéo expliquée en langue des signes pour permettre aux gens en Haïti là, de se prémunir ou de prendre les bonnes mesures pour éviter que le choléra ne se répande davantage. Alors ça, c'est une chose. Des méthodes de prévention et tout ça, mais en langue des signes. Ça, c'est très bien. Et pour l'année prochaine, en 2024...
Il y a un deuxième volet qui consistera à une série de formations au profit de 50 personnes qui vivent avec un handicap auditif à travers 4 ateliers. Donc, c'est des ateliers variés, là, de couture, d'ébéniste, de décoration et de maquillage.
On m'a même dit qu'il allait avoir un atelier de cuisine.
Ah, ben voilà!
Voilà, on en sait des choses! On parlait tout à l'heure de la situation en France, là, des efforts consentis maintenant par la présidence Macron et Mme Borne, sa première ministre. En Suisse, il y a encore du chemin à faire.
Oui, on a constaté ça, c'est que en fait, il y a 1,7 million de personnes qui vivent avec un handicap en Suisse et qui se heurtent quotidiennement à de nombreux obstacles. Bon, c'est probablement le quotidien de bien des gens qui vivent aussi ici. Mais en Suisse, c'est pire. On va le dire, c'est pire.
Ben oui, pour avoir fait d'autres petits tours en Suisse, vous avez constaté au cours des dernières semaines que de temps en temps, là, il y avait encore une certaine mise à niveau qui était nécessaire.
Nécessaire, tout à fait.
La Constitution de la Fédération suisse interdit depuis 2000 toute discrimination fondée sur un handicap. C'est fort bien, mais on peut quand même constater que 2000, c'est il n'y a pas si longtemps. C'est un peu comme le vote des femmes. Une large alliance regroupant des personnes en situation d'handicap a fait front commun.
Voilà. Et on a réussi, en fait, à convaincre le gouvernement qui voulait, qu'il y avait quand même une ouverture, il faut le dire, mais qu'on pourrait dire que les actes n'étaient pas encore tout à fait
Oui, encore un bel exemple de la vertu qui n'est pas appliquée.
Mais ça y est, on veut vraiment avancer et les choses seront faites.
Voilà. Alors, on va revenir chez nous dans deux petites minutes. Voilà. Oui, les Oilers d'Edmonton se sont qualifiés pour la deuxième ronde en week-end, mais on va parler d'Edmonton, mais pas pour la même raison.
Non, pour le True Angel, qui réalise actuellement des essais cliniques dans la province et travaille à obtenir l'approbation de Santé Canada.
Pour s'ils font ça, là, c'est pas pour rien, parce que cette entreprise d'Edmonton vient de mettre au point un dispositif qui va aider les personnes qui font de la dysphagie, qui ont de la difficulté à avaler, à déglutir.
Oui, c'est important.
Ça, ça peut être après des chirurgies, ça peut être après un accident. Il y a toutes sortes de chemins, malheureusement, qui mènent à la dysphagie. Donc, ce dispositif va aider à la réhabilitation.
Oui, c'est un appareil qui s'installe sous le menton et les capteurs notent la contraction des muscles et le temps que ça prend pour, en fait, contracter.
La contraction, je dirais l'intensité de la contraction et sa durée.
Voilà, pendant lequel cette contraction a lieu. Voilà, l'appareil est une source de motivation pour maintenir le programme d'exercice nécessaire à la réadaptation.
Parce que ce qui arrive, c'est que les données qui sont captées par ce dispositif sont transmises à une application sur le téléphone et à ce moment-là, le médecin... l'ergothérapeute, enfin la personne qui va superviser les exercices ou le programme de réadaptation va avoir une meilleure idée des progrès de la personne qui souffre malheureusement de dysphagie. Puis évidemment, la personne qui vit avec ça, ben, ça l'encourage en voyant que les exercices parfois longs, fastidieux et pas évidents vont du bon côté des choses. Voilà.
Et c'est grâce à une bourse de 200 000 $ obtenue de la Fondation du cancer de l'Alberta.
Exact.
Qui ont pu faire.
Voilà. En parlant de dons, il y a des gens généreux au Québec.
Ah oui. Ah. Monsieur Marcel Lucier, nommons-le, qui a gagné 7 millions de $ à la loto l'été dernier.
Il n'a pas gagné 7 millions, madame.
Oh, non.
Il a gagné 70.
70.
OK.
Voilà.
C'est ce qui n'est pas rien.
Oui. Oui,
voilà.
Et il en consacre 10 % donc 7 millions, pour, en fait, la Fondation Véro et Louis. Donc, on connaît naturellement Véronique Cloutier et Louis Morissette qui ont une fondation.
Un power couple.
Oui. C'est une fondation qui vient en aide aux personnes autistes, mais devenues adultes. Donc, ils construisent des maisons pour aider ces personnes-là à justement avoir leur endroit à eux-mêmes. Et avec ces 7 millions de $-là, on va pouvoir construire deux nouvelles maisons.
Bravo.
Celle à Victoriaville et une dans les Laurentides. Donc, c'est pour les autistes de plus de 21 ans.
D'accord. Alors, ben là, bon, merci évidemment, M. Lucier. Il aurait pu penser à d'autres causes. Puis, ben, en tout cas...
Ça viendra peut-être.
Ben, peut-être, mais ouais. C'est tout de même très généreux de sa part. Et on peut penser là, que tout le bienfait que ça veut dire, ben pour une fondation de recevoir un coup de fil en disant on a 7 millions à vous donner, ben là c'était comme un peu comme Louis Morissette lui-même l'a dit, c'est un peu comme si la fondation elle-même avait gagné la loterie. Hein?
Voilà.
Hein? C'est bien.
J'ai ouï dire qu'il y en avait la larme à l'œil. Donc,
ah,
il était
ben, c'est,
très,
ben,
très touché de
y a
la
de quoi aussi, il y a de quoi, tout
ouais,
à fait.
Avec raison.
Il y a eu le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, dis-je, à Québec, toujours. Remettait la semaine dernière des prix.
Oui, un hommage au bénévolat au Québec pour 2023. Donc, on commence par la maison Albatros à Trois-Rivières. En fait, on a souligné son apport parce que les bénévoles accompagnent des personnes recevant des soins palliatifs et offrent du soutien à leurs proches.
Depuis même, en fait...
Presque 20 ans.
Presque 20 ans, hein? Exact. Parce qu'il y a plusieurs de ces organismes donc qui ont reçu cette distinction, qui sont dans le domaine communautaire qui nous est cher ici à Canal M. Le Centre d'action bénévole Trade Union en Mauricie, qui depuis plus de 50 ans, le Centre d'action bénévole Trade Union, promeut, hein, ça c'est bien parce que c'est pas toujours évident qu'on utilise cette conjugaison, promeut l'action bénévole. Il y a plus de 600 heures de bénévolat chaque semaine en Mauricie. Ça fait 250 bénévoles qui consacrent 25 000 heures par année. Alors, c'est le Centre d'action bénévole Trade Union de Mauricie, dont le travail a été... on s'est mérité un coup de chapeau.
Ouais,
voilà.
C'est impressionnant. Et Informel Montérégie, en fait, qui fête ses 45 bougies d'existence. L'activité de cet organisme consiste à fournir des renseignements sur les droits et les obligations en matière familiale.
Exact. Cette organisation, il faut le souligner, est par les femmes, pour les femmes. Quand on dit informel, c'est M'E2LE. Ce sont toutes des femmes qui travaillent à titre de bénévole. Et ça s'adresse surtout à les personnes qui appellent pour avoir des renseignements sont souvent des femmes qui sont aux prises avec des situations de droit familial qui ne sont pas évidentes. Ça peut être des personnes qui sont victimes de violences ou qui, de nouvelles arrivantes au Québec, ouais, ne connaissent pas nécessairement tous leurs droits. Et c'est la mission d'Informel qui est à Saint-Hubert, je pense bien, de les aider. Voilà. La maison des jeunes, la Butte également,
en Montérégie,
en Montérégie, oui, aussi, s'est vue récompensée pour son action qui stimule le bénévolat chez les jeunes entre 12 et 17 ans. Alors là encore, c'est une activité qui, je dirais, fait du bien de deux façons. Un, ça permet aux jeunes d'acquérir des habiletés et plus d'aisance face à des situations de la vie courante. Puis en même temps, ben, ça fait du bien aux organismes qui bénéficient de cet apport de bénévolat. Mais, tenons-le à le souligner spécialement ici à Canal M, il y a le RAM.
Le RAM, le Regroupement des aveugles et ambliopes, du Montréal métropolitain. On en parle presque à chaque semaine, François.
Ben oui, c'est sûr, c'est des partenaires.
C'est des partenaires. Donc, la représentante de l'organisme, Mme Martine Grenier, responsable du service d'aide bénévole, a reçu en fait ce prix-là pour l'organisme au complet.
Oui, tout à fait.
Qui œuvre depuis 27 ans auprès des membres de cet organisme qui vivent avec une déficience visuelle. Donc, les bénévoles les accompagnent dans différentes activités quotidiennes, les commissions, les rendez-vous, les sorties de loisirs. Il faut ajouter tout ce qu'on sait, la formation, des ateliers réguliers.
Tout à fait. Et en parlant, en parlant d'ateliers, le RAM, toujours, la conférence sur le sommeil avait été reportée, mais aura bel et bien lieu lundi, le 12 juin. Cette conférence donnée par Mme Claudia Picard-Delan de l'Université de Montréal sera donnée de 13h30 à 15h le 12 juin. C'est en présence. L'inscription, la date limite est le 5 juin. Vous avez jusqu'à ce moment-là. Vous pouvez contacter Céline au 514-277-4401, poste 111, pour vous y inscrire. Il faut comprendre, Esther, que le sommeil est une problématique pour plusieurs personnes qui ont un handicap visuel parce que le cycle circadien n'est pas facile à maintenir quand on ne sait pas tout à fait si c'est le jour ou la nuit.
Wow, voilà. Alors, c'est très intéressant.
Ça fait du sens quand vous y pensez un peu. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui ont une cécité totale et pour qui le sommeil, c'est souvent un peu problématique pour ces raisons-là.
Oui, je comprends. On parle aussi, en fait, de gens qui vivent avec l'apnée du sommeil, des insomnies.
Aussi.
Ça peut aussi contribuer à leur santé.
Une conférence très
intéressante.
Il y a un lien direct
entre le sommeil et le sommeil.
Non, ça coûte 5 $
C'est presque gratuit.
Ça vaut la peine. Tout à fait. Il faut pas. C'est pas gratuit, mais c'est disons qu'il y a un ticket modérateur. Cela dit, en parlant justement des dates limites et de ces choses-là, le programme du ministre de l'Emploi et de nous rappelle que la troisième édition du programme Duo Emploi va avoir lieu très bientôt. Et pour s'y inscrire, cet organisme Duo Emploi, on le rappelle, c'est une façon pour des personnes en situation d'handicap de faire une journée de découverte au sein d'une entreprise. Ça permet aussi à l'entreprise de comprendre le bon côté des choses, d'avoir des employés qui vivent avec une situation d'handicap et qu'est-ce que ça demande comme adaptation. Les stages d'un jour se tiendront dans toutes les régions du Québec au cours de la semaine québécoise des personnes en situation d'handicap, soit du 1er au 7 juin. La date limite pour s'inscrire à Duo Emploi pour la première semaine de juin, c'est le 5 mai. Et le 5 mai, là, c'est bientôt,
c'est vendredi.
Oui. Voilà. Alors, on vous suggère, si vous voulez vous inscrire, la porte n'est pas fermée. C'est sur québec.ca /duo-emploi. Cet hyperlien s'ouvrira vers une autre fenêtre qui va vous permettre de vous inscrire. Voilà, ben ça fait le tour de la planète. J'aimerais remercier Mme Esther Hardy. Merci, Esther.
Merci à vous.
Hein, vous avez maintenant le temps de défaire vos valises avant de repartir une autre fois. Tout à fait. À la régie, on a Mathieu Tessier. Mais Mathieu, finalement, il fait presque plus rien, là. C'est Jennifer Ondo qui se tape tout le travail. Merci, Jennifer. Et Claire Guérin à la recherche, dont on n'entend pas la voix, mais dont nous lisons le travail et le labeur chaque semaine. Ici François Beauregard qui vous souhaite un bon mois de mai jusqu'à la semaine prochaine.
Après ces